Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires.
Saviez-vous que le surf est le sport le meilleur pour la santé ? Non seulement on oxygène ses muscles, on renforce son cœur, on libère des endorphines et puis aussi de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Et grâce à Caroline, eh bien vous apprendrez que le surf fait apparemment aussi sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'amour.
Alors moi j'ai grandi dans une famille avec un papa chirurgien mais fils d'agriculteur et une maman infirmière anesthésiste mais fille d'ouvrier. Un couple qui s'est fait un peu tout seul et qui a accédé à une vie, on va dire, une belle vie, sur, en tout cas matérielle, mais une très belle vie de par leur force personnelle. On dira que j'ai eu une enfance un petit peu tourmentée au niveau émotionnel puisque mes parents ils s'entendaient finalement pas très bien, c'était des personnes très entières et avec des caractères très forts tous les deux. On va dire qu'il y avait beaucoup quand même de colère, d'engueulades entre eux, c'était pas très stable quoi. J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi et une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, donc on est 3. Je suis l'aînée de la fratrie. On avait une belle maison, on est du nord de la France, c'est quand même une région où il y a pas mal de bourgeoisie et surtout ma maman voulait vraiment nous sécuriser, elle voulait vraiment qu'on réussisse notre vie, et pour elle, réussir sa vie, ça veut dire réussir à l'école, avoir un bon job, bien gagner sa vie, avoir une belle maison, être bien habillée, être entourée de gens intelligents. Et pour elle, l'intelligence, c'est aussi la réussite sociale. Enfin voilà, en tout cas, c'est ça qu'elle nous transmet à ce moment-là. On a tous nos particularités, mais moi, on dira que je suis quand même celle qui est pas du tout dans le moule. Et c'est assez compliqué pour ma maman. Elle aimerait que je sois la petite fille parfaite qui est forte à l'école, qui est polie, qui a une vie qui déroule facilement, comme c'est le cas d'ailleurs de pas mal d'enfants de ses amis qui sont très bien élevés, qui ont tous des petits chemisiers. Voilà. Et moi, j'aime bien l'équitation, mais plutôt à la ferme et pas dans la belle écurie avec le super matériel. Voilà, je suis pas très branchée école du tout. Je suis plus cours de récré que école. Je parle pas très bien, je pense que je suis plutôt assez impolie. Je réponds beaucoup, je suis assez quand même rebelle. Et ma maman, ça lui pose pas mal de problèmes. Elle fait très attention à mes relations, c'est-à-dire que pour elle, il faut pas que je sois amie avec n'importe qui. Donc depuis toujours, elle est très attentive à mes relations et je suis toujours, selon elle, attirée un peu par les mauvaises personnes. Donc je vais avoir toujours un petit peu une vie parallèle, en fait. Je vais avoir toujours la vie que je vis avec ma maman, avec les enfants de ses amis, etc. Puis je vais avoir mes amis, mais qui vont très peu compter pour elle, en fait. Et après, il y a une fracture, effectivement, c'est que mes parents, ils se séparent dans un contexte assez compliqué. Et après ce divorce, je vais vivre avec ma maman, mon petit frère et ma petite sœur, sur l'île, donc dans une ville assez loin de chez mon papa. Enfin, on y est quand même 3 quarts d'heure en voiture. Voilà, ma maman retourne un peu dans sa ville racine. On va dire qu'elle avait quitté pour rejoindre mon père et on part vivre avec elle à 3. Moi, je suis une adolescente plutôt en marge, oui. Et alors là, je vais l'être encore plus. C'est-à-dire que ma maman, finalement, elle divorce, elle arrive à Lille. Elle se met en couple avec un autre homme avec qui elle va rester quand même, je pense, de mémoire, au moins 7 ans, qui est adorable, hein, au demeurant, mais à qui je vais vraiment faire une vie d'enfer. Moi, je vais pas du tout supporter, en fait, que ma maman puisse appartenir à quelqu'un d'autre et tout ça, et ça va développer chez moi, quelque part, encore plus de rébellion, et donc, je vais être encore plus, finalement, indépendante, mener ma vie. Je pense que je suis vraiment l'adolescente qu'on veut pas avoir chez soi. Le divorce de ma maman va être prononcé après 8 ans de bataille avec mon papa. Son divorce est prononcé et elle se sépare de l'homme avec qui elle était. Et quelques mois plus tard, elle se plaint souvent de douleurs à l'oreille, à la gorge. Elle est très fatiguée et elle va consulter plusieurs fois. Je me souviens très bien que dans la voiture, un jour, elle me dit « c'est sûr que j'ai quelque chose ». Elle se touche l'oreille. J'ai vraiment ce geste. Je la vois se toucher l'oreille régulièrement et me dire « c'est sûr que j'ai quelque chose ». Il trouve pas, mais j'ai quelque chose. Et effectivement, 3 mois plus tard, dans notre salon, elle nous dit un soir à moi, mon frère, « il faut que je vous dise quelque chose ». J'ai un cancer et c'est pas un cancer qui guérit. Et donc en fait, on est tellement pas préparé qu'on prend l'info, je pense qu'on est assez choqué. Chacun de notre côté d'ailleurs, on va pas en parler ensemble. Donc on vit avec cette maladie quand même pendant 2 ans. Et puis quelque part, je pense que la nature humaine est bien faite et qu'on a une sorte d'instinct de survie pour soi-même et pour son parent et pour ses enfants, où on se sent un peu invincible, on se dit pas que ça va arriver quoi, on se dit pas que ça va s'arrêter. Et au bout de 2 ans et demi, l'hôpital indique qu'ils arrêtent les soins. Donc là, ma maman, elle va partir 2 mois après être hospitalisée à domicile. Donc c'est quand même assez long. C'est des moments très forts avec elle. On peut partager quand même beaucoup. Et donc moi, quand ma maman, elle part, finalement, d'un coup, je suis projetée dans une vie avec une maison, mon frère, ma sœur qui vont encore à l'école. Mon frère va avoir son bac juste après. On sait pas comment il fait, mais il a son bac, donc c'est incroyable. Et puis finalement, on se retrouve dans une vie quand même d'adulte, à vivre à 3 à la maison. Et je sais pas si vraiment je réfléchis, mais en tout cas, naturellement, je vais quitter tous les amis qui sont ceux qu'elle ne pense pas les bons pour moi et je vais me rapprocher d'une vie qui est celle qu'elle veut pour moi. C'est-à-dire que je vais vraiment embrasser la vie qu'elle me réclamait depuis des années, quoi. Je vais prendre un job, je vais être hyper sérieuse, je vais me relancer dans mes études. J'étais pas du tout scolaire, et ben je vais faire mon BTS, je vais passer un concours palier pour faire une licence, je vais aller faire un master, enfin je vais aller au bout du bac plus 5 et je vais être sérieuse. Alors je suis quelqu'un déjà qui est quand même assez sérieux, c'est-à-dire que je suis pas une grosse teufeuse ni rien, donc voilà. Mais voilà, je vais être dans une vie beaucoup plus, on va dire, standard, qui colle un peu à ce qu'elle attendait. En tout cas, exactement 1 an après son décès, je vais rencontrer d'un baptême chez des amis de ma maman, le fils d'amis de mes parents, qui est un mec qui habite à Paris, qui a un super job, qui est très sympa, qui est hyper drôle, qui va me faire rigoler, qui a 5 ans de plus que moi et qui va quelque part me séduire. Je vais me dire, ce mec-là, c'est pour moi, quoi. Ça veut dire, c'est lui. Il est tout l'inverse des hommes que j'ai eus jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il est issu d'un milieu aisé. Il a un côté quand même un petit peu assez hors du cadre aussi dans son milieu à lui, mais rien à voir avec les relations que j'avais avant. C'est-à-dire qu'on est quand même sur, effectivement, une personne qui est aux antipodes de ce que j'ai eu avant, mais qui, à ce moment-là, va me paraître vraiment la bonne personne. Est-ce que j'écoute mon cœur à ce moment-là, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'y vais, il me séduit, je me dis que je vais vivre des trucs incroyables avec lui, que ça y est, ma vie est tracée, ça va être avec lui, je vais faire ma famille. C'est bon, je l'ai trouvé, quoi. Les premiers temps ensemble, ils sont hyper bien, parce que moi, je sors un an et demi, 2 ans, hyper compliqué, où un peu mon cercle social s'est cassé. Enfin, il va me donner des repères, en fait. C'est-à-dire qu'il va m'intégrer dans sa vie. Lui, il a un cercle d'amis hyper riche, il a des amis depuis toujours, il a un peu vraiment cette stabilité que moi je n'ai pas et que je ne suis pas finalement. Je vais voyager avec lui, je vais aller au restaurant, des choses que je faisais très peu avec mes parents, je vais avoir un cercle social hyper stable, c'est-à-dire que tous les week-ends on voit ses amis, ils sont hyper sympas, j'embrasse le truc à fond, ça me fait beaucoup de bien à ce moment-là parce que vraiment je suis assez perdue et on va vivre cette vie quand même très riche pour moi, c'est-à-dire que vraiment j'apprends énormément de choses, il m'emmène à des concerts, j'étais jamais allée à des concerts de ma vie. Voilà, on va faire des trucs que j'ai jamais fait, ça va être extrêmement riche. Et à la fois, on a quand même une intimité assez conflictuelle, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, et finalement moi aussi, on va dire, on est un peu dans un duel permanent pour justifier un peu qui a la meilleure vie. Lui, il va facilement me faire quand même des reproches sur ma vie, ou en tout cas ce que je suis, parce que pour lui, je pense que c'est justement, ça évoque l'instabilité, et moi ça me blesse énormément, parce qu'en fait c'est comme si finalement il me disait chaque jour à quel point au fond de moi j'étais pas quelqu'un de valable, parce que moi je sais qu'au fond je suis comme ça quand même. C'est-à-dire que la vie, elle est à la fois, elle est parfaite sur le papier, et à la fois émotionnellement elle est quand même difficile. Donc en fait, on se met ensemble en 2008 et ses parents investissent à Marrakech au même moment. Après quelques années de relation, on va décider de se marier. Il va me faire une demande en mariage incroyable, à la hauteur de ce qu'il attendait de la vie aussi, je pense. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien le grandiose, c'est quelqu'un qui aime bien les belles choses, qui aime bien... voilà. Et franchement, il m'a fait une demande assez incroyable sur un rooftop à Bangkok. Évidemment, j'accepte. Et on va se marier en 2012 à Marrakech, là où on passe un peu tout notre temps, toutes nos vacances, un endroit qu'on adore. Moi, je voyageais pas du tout avec mes parents. J'étais allée en Tunisie, je veux dire, dans des hôtels, voilà. Mais le Maroc, tel que je le vis avec ses parents et avec lui, c'est vraiment une découverte et c'est un pays qui me fait énormément de bien parce qu'en fait, c'est assez proche de chez nous. Donc, c'est très facile. J'ai pas l'impression de partir au bout du monde à chaque fois. Et quand on arrive là-bas, c'est totalement dépaysant. C'est une autre culture. C'est un autre rapport au temps. C'est extrêmement coloré. C'est extrêmement accueillant. Les gens sont très souriants. En plus, c'est le Marrakech d'il y a longtemps. Donc, voilà, c'était très authentique. Finalement, je pense que ça met sous le nez quelque part des gens qui me parlent parce que c'est des gens très simples, qui n'ont pas grand-chose et qui vivent une vie qu'ils choisissent de rendre belle chaque jour. Donc après notre mariage, tout de suite, on se dit on va avoir des enfants. J'attends d'avoir un enfant quelque part pour retrouver ce lien de filiation que je n'ai plus, en me disant ça va me soulager d'un truc en fait. Je vais passer de orpheline à maman et ça va sûrement m'apaiser énormément. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes en fait émotionnelles d'avoir un enfant. Il faut que je le vive. Et donc très vite, je vais tomber enceinte parce que Roxane, ma fille, va arriver en juillet 2013. Ça va être évidemment un moment incroyable parce que je vais vivre une grossesse un peu sans personne autour de moi, parce que j'ai ma sœur est beaucoup plus jeune que moi, mon frère aussi, ils ont pas d'enfants, ils sont en train de vivre autre chose en fait à ce moment-là. Je suis la première, donc voilà. Et ma maman n'est pas présente, mon papa je le vois pas à ce moment-là du tout, donc j'ai une grossesse assez seule. Et à la fois, l'arrivée de ma fille, c'est incroyable. Voilà, c'est un truc de dingue où ça y est, je suis maman, j'ai ma fille. C'est à la fois hyper riche, c'est incroyable, ça me transcende, etc. Et à la fois, ça va me menoter dans une sédentarité que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était rarement à l'intérieur. Je passais ma vie à l'extérieur. J'étais, on l'a dit, assez libre dans ma tête, etc. J'étais quelqu'un qui était beaucoup dehors, à droite, à gauche. Et puis d'un coup, je vais me retrouver maman. Quand on est maman, on est quand même, on a beau pouvoir sortir avec son enfant, d'un coup, on est quand même dans un quotidien et dans une routine qui nous menotte quand même un petit peu à domicile, ou en tout cas dans une vie beaucoup plus calme. Ça, je vais assez mal le vivre. Le papa va pas le réaliser. Moi, je vais pas réussir non plus à le réaliser, à le verbaliser comme je le verbalise aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est extrêmement dur pour moi de me retrouver dans cette vie quelque part plan-plan, qui finalement ne me correspond pas du tout. Et pour autant, donc les rapports vont plutôt se tendre, mais je pense qu'on est tous les deux dans notre schéma aussi, et il n'est pas question qu'on ait un seul enfant, et on vit encore quand même à côté de ça des moments hyper canons. Les vacances, c'est génial, les soirées, c'est génial, même si le quotidien est un peu compliqué, finalement, c'est pas si différent de chez les autres. Et on va faire un deuxième enfant, qui va arriver en décembre 2015, une deuxième petite fille. Mais c'est vrai que ma grossesse, par contre, là, va être hyper chaotique. 18 mois plus tard, je vais être enceinte de ma deuxième fille. Et au bout de 3 mois et demi de grossesse, en fait, on me découvre lors d'une soirée d'anniversaire d'un pote sur Paris. J'ai extrêmement mal à la tête, je me sens très mal. Je dois quitter la soirée parce que vraiment, je le sens pas, j'arrive pas à faire passer ce mal de crâne. Je vais me coucher. Le lendemain matin, on a un déjeuner le midi, je peine à y aller et arriver là-bas, j'ai vraiment du mal à profiter du moment. J'ai encore pris un Doliprane le matin, un Doliprane le midi, enfin que j'espace de 6 heures parce que c'est la règle, mais Mais voilà, ça passe pas du tout. Je me dis peut-être que j'ai une migraine de grossesse parce que je ne sais pas ce qu'est une migraine, j'en ai jamais eu. Je me dis peut-être que j'ai ça, mais la journée passant, ça devient de plus en plus douloureux. Je continue de penser que ça va passer en fait, que c'est un truc, voilà. Mais c'est quand même de plus en plus douloureux. J'arrive à m'endormir et quand je me réveille, là vraiment, je me redresse dans le lit et là, je sens que j'ai un problème. Je sais pas, mon corps me lance un appel, je réalise qu'il y a un truc qui va pas. Donc j'appelle mon frère, j'ai un demi-frère qui est médecin. Il me demande si je vois des taches sur mon corps, il me demande de me déshabiller, de vérifier que j'ai pas de taches violettes sur le corps, etc. Et il me dit, écoute, on suspecte quelque chose quand même d'assez grave, donc il faudrait que tu puisses aller à l'hôpital maintenant. Je vais arriver à l'hôpital vers 23h, je vais être extrêmement vite prise en charge parce qu'ils ont appelé, ils ont prévenu et que voilà, je vais avoir une ponction lombaire et là, la médecin va revenir dans la chambre avec une combinaison de spationautes, une flopée de médicaments. Donc j'avoue que je suis quand même assez inquiète dès le départ parce que je me dis c'est quand même bizarre qu'en étant enceinte on puisse pas prendre beaucoup de médocs et là je me retrouve quand même avec un truc assez flippant sur le bureau. Et donc elle m'explique que effectivement c'est pas compatible avec ma grossesse, mais qu'en fait c'est pas vraiment le sujet là parce que là on est en train de parler d'une méningite bactérienne qui est une maladie qui tue et que si moi je ne suis plus là de toute façon il y aura pas de bébé. Donc là waouh, je me dis ok. Et là c'est vrai que j'ai quand même un gros choc parce que quelque part je menais ma vie comme elle était, mais jamais je m'étais dit qu'il était possible que ma fille perde sa mère à un âge encore plus jeune que moi j'avais perdu la mienne. Et donc là ça me met quand même un gros coup parce que je suis extrêmement choquée, je me dis qu'en fait waouh, ça peut s'arrêter là quoi. C'est-à-dire que il se peut que le souvenir qu'elle ait de moi ce soit cette personne jusqu'à maintenant en fait. Donc ça me met quand même un gros coup et c'est vrai que ça me fait énormément réfléchir sur la vie que j'ai, sur ce que je suis en train de faire, sur où j'en suis, sur le sens un peu de ma vie. Donc je vais mener ma grossesse à terme. Jusqu'à la fin, ils vont pas trop savoir me dire si le fœtus est en bonne santé. Donc soit je perds l'enfant, soit si je le garde, ça va aller. C'est-à-dire que ça donne pas de malformations, etc. comme les virus. Donc moi, je suis assez sereine parce que je me dis tant qu'elle est là, elle est là. Et quelque part, ce qui fait le plus peur, c'est les malformations, etc. Là, sur le papier, j'y suis peu exposée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qui tout double. Soit ça va, soit ça va pas. Et donc ma grossesse, je me fais traiter pendant deux mois de soins quand même assez intensifs qui me font très mal. Pour le coup, je souffre quand même beaucoup physiquement. Je perds 7 kilos en étant enceinte, donc c'est assez dur. Et je finis quand même ma grossesse, ça va au bout, et j'accouche en décembre. Et donc, j'accueille ma deuxième petite fille, un peu mon cadeau du ciel, qu'elle soit en bonne santé et que tout aille bien. Je suis jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on me la donne, et même les premières semaines de vie, je suis assez stressée quand même. Je regarde un peu comment elle évolue et tout ça. Je crains qu'on découvre un truc. Mais non, tout va bien, elle est top, c'est évidemment génial, c'est dès qu'on découvre son enfant, on est tous transcendés d'amour, voilà, donc elle est incroyable, elle rencontre sa sœur, c'est génial, quelque part, voilà, je revis cette vie très standard, top, tout va bien. Je sens que cette maladie, c'est un tournant parce qu'en fait, je réalise pas vraiment que j'ai eu peur à ce moment-là, mais je sais qu'en tout cas, je me pose la question. Chaque matin, je me dis que j'ai énormément de bol d'être là. C'est-à-dire que vraiment, j'ai besoin de me sentir vivre, mais plus, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai cette soif de vivre qui revient. C'est-à-dire que jusqu'à là, finalement, j'étais en train de dérouler un truc. Et là, je me dis non, en fait, c'est pas ça. Je dois pas être à 50%, je dois être à 110%, en fait, parce que ça peut s'arrêter demain. Donc c'est vrai que je me libère un peu de certaines choses. Même mon ton avec mon mari à ce moment-là change. C'est-à-dire que je reprends quelque part un peu du poil de la bête et je revendique des choses. Je veux sortir de chez moi. Je veux une vie beaucoup plus partagée dans la gestion des enfants. Je veux continuer de travailler et pas baisser mon travail, mais plutôt aller vers de l'indépendance financière. En tout cas, voilà, je marque un peu plus les choses et donc ça continue de tendre nos relations parce que lui, il fait ça aussi pour moi. Lui, il pense que ça va être confortable pour moi d'avoir plus de temps, d'être à la maison, de m'occuper des enfants, etc. Mais moi, je veux pas ça, en fait. Donc, on continue un peu de se séparer. Et oui, ce moment-là, c'est un moment assez décisif quand même parce que je sais que je me dis de manière beaucoup plus définitive, ça, je veux plus. Et je sais que dans ma tête, ça résonne quand même assez régulièrement. En fait, j'ai du mal à m'autoriser ne pas être bien dans cette vie, quoi. Parce que finalement, il y a un peu tout. Mais en fait, je suis hyper mal. C'est-à-dire que c'est très difficile parce qu'on n'est pas en connexion. On l'est plus. C'est dur. On s'accroche. Il a des mots extrêmement durs envers moi. Donc, moi, ça abîme des choses aussi dans l'amour qu'on se porte. C'est-à-dire que notre couple, il est quand même abîmé par ça. Et j'ai du mal à oublier. Et donc, petit à petit, en fait, ça devient compliqué. Et là où moi, j'ai de plus en plus besoin de retrouver de l'intensité dans ma vie, eh ben, c'est de plus en plus difficile, finalement, de l'avoir avec lui, parce que la flamme s'est petit à petit éteinte. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'une flamme de plus en plus grosse, et ma flamme dans mon couple est devenue de plus en plus petite. Je me retrouve quelque part un peu dans la relation qu'avaient mes parents, c'est-à-dire quelque chose de très conflictuel, où en fait, moi, je me mets à la place de mes filles, et je me dis, je ne peux pas leur faire vivre ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas leur faire vivre une vie où on s'engueule, où on se regarde sans amour, où on se critique, où on s'agresse. En fait, je ne veux pas que mes enfants voient ça. Surtout pas. Donc ça me donne quand même une force pour partir. Et puis, je me fais accompagner à ce moment-là d'une psychologue qui va énormément m'aider pas à divorcer, mais en tout cas à me reconnecter un peu avec ce que je suis déjà. Et va s'en suivre le fait que je divorce en 2018. L'annonce à ma famille, ça a été hyper difficile. J'ai peur de décevoir mon frère, ma sœur. J'ai peur de leur remontrer quelque chose d'instable alors que j'avais ouvert une voie qui était stable, en fait. Et quelque part, c'était un peu mon rôle en tant qu'aîné. Donc moi, je vais extrêmement mal le vivre. Franchement, ça va être très dur. Et comme toute ma vie a quand même beaucoup tourné autour de la vie de mon mari, du papa de mes filles, je vais perdre dans mon divorce aussi énormément quand même. Donc moi, je vais aller vivre chez mon frère pendant 6 mois, qui habite juste à côté de chez moi. Ça va me faire déjà énormément de bien parce que je vais me reconnecter à mon frère. Donc lui, il va me faire beaucoup de bien. Le fait qu'il soit là, c'est extrêmement important. Ma sœur va être là aussi énormément pour moi. Donc franchement, c'est un moment de reconnexion de famille qui va me faire beaucoup de bien. Mes filles vont passer beaucoup de temps avec mon frère et ma sœur, donc ça va être aussi quelque chose d'extrêmement riche pour moi. Après ces 6 mois avec mon frère, je vais me remettre en couple avec un homme qui va partager ma vie pendant quelques années, mais qui va vraiment énormément me faire de bien parce qu'il va me laisser ma place, en fait. Ça va être une relation qui me fait énormément de bien. En parallèle de tout ça, au niveau pro, depuis mon divorce, je vis aussi une période hyper riche puisque, en fait, j'ai un job qui marche bien et la vie fait que, après avoir bossé dans des grands groupes, etc., je me retrouve à rencontrer un fondateur qui recherche quelqu'un pour s'associer et qui va me faire une belle proposition. Et donc, professionnellement, je vais aussi passer des caps importants qui vont à la fois m'apporter énormément au niveau pro, mais à la fois me mettre dans une vie qui est extrêmement stressante, extrêmement difficile. Et donc voilà, il y a tout un contexte qui fait que en 2022, je suis dans un moment de vie où en fait c'est extrêmement dur. Je suis un peu l'ombre de moi-même parce que je suis usée par le taf, usée par ce couple que j'ai qui n'avance pas en fait, qui stagne, qui est de plus en plus fade. Ça me fait pas du tout réfléchir à ce moment-là, mais voilà, je suis un peu au bout de mes forces. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, il faut que je prenne du temps pour moi toute seule. Il faut que je retrouve un peu d'air parce que là j'ai plus aucune énergie. Et c'est là que le Maroc revient sur la table où je me dis il faut que je reparte en fait au Maroc moi, ça va me faire du bien. Le Maroc propose aussi des destinations où on peut faire du surf et donc je me dis eh ben je vais aller tester le surf parce que mes enfants en font sur la côte d'Opale l'été, donc si je match avec ce sport ça va être cool parce qu'on va pouvoir en faire ensemble, etc. J'arrive là-bas, je découvre ceux qui vont composer mon groupe sur cette semaine au Maroc, dans le surf camp dans lequel je suis. Et il y a un couple de médecins incroyable, une nana qui est pédiatre spécialisée dans tout ce qui est psycho et troubles de l'attachement, etc. Et elle, dès le premier jour, elle va me connecter à moi, mais directement. C'est-à-dire qu'elle est assez incroyable. Et donc je me retrouve dans un groupe extra. J'ai pas démarré le surf, mais j'ai cette connexion avec ce couple-là qui est dingue. Et donc finalement, les vacances commencent et je suis hyper heureuse parce qu'en fait, je me dis putain, ça va être canon. parce que là, elle est en train de m'aider, elle, à me connecter à moi-même. Ça va me faire beaucoup de bien. Je prends une photo de moi, un selfie que j'envoie à ma sœur. Je suis jaune sur la photo, quoi. C'est vraiment, on dirait que j'ai, je sais pas, une maladie, j'en sais rien. En tout cas, on voit vraiment clairement que je suis au bout de ma vie. Je vais reprendre le même selfie 3 jours après. Je suis métamorphosée physiquement, quoi. Et donc là, je suis hyper contente parce que je me dis, la semaine va être dingue. Le surf démarre. Donc là, on commence les cours de surf, c'est canon. Et j'ai un mec qui est du surf camp, qui s'appelle Amada, qui est un homme grand, fin, musclé, hyper souriant. Évidemment, il est hyper beau, mais surtout, il est doux. Et il est vraiment dans le don de lui, quoi. C'est-à-dire que il me touche, en fait, ce mec. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est hyper gentil, je le sens posé, il me fait beaucoup de bien, il vit le truc à fond, il croit en moi, il met de l'énergie dans le truc, et je sais pas comment l'expliquer, mais il se passe un truc. Alors évidemment, dans le cliché total, donc c'est pas un truc qui à ce moment-là me transcende, mais je me dis putain, il y a un truc, quoi. Je le sens assez secret. Je sens quand même une personne un peu blessée, donc j'aime bien aussi aller le chercher, échanger avec lui et tout ça, parce que c'est pas quelqu'un qui prend de la place et qui voilà, non, pas du tout. Et donc on commence à discuter, donc c'est quand même assez compliqué parce que je suis là-bas, il y a mon ami du moment qui est là quand même, donc on est physiquement au même endroit et à la fois on passe une semaine complètement différente, c'est-à-dire que la semaine entière de vacances, on n'est pas ensemble en fait, c'est-à-dire que vraiment moi je vis ma semaine toute seule. Et lui vit sa semaine tout seul. Après, on n'a aucun engagement ensemble. On est voilà, on a lui, il a 2 enfants, moi j'ai les 2 miens. On a une vie qui est comme ça depuis le début, où c'est finalement, je le disais, on n'a pas construit grand chose, quoi. Il est chez moi, on n'a pas de compte ensemble, on n'a rien. Il y a ce qui va avoir toute son importance d'ailleurs dans la suite des événements, quoi. Donc pendant cette semaine, il se passe des petites choses. On s'échange quand même notre numéro, alors qu'il il donne jamais son numéro de téléphone d'habitude, parce qu'en fait il a pas du tout envie, il est pas à l'aise dans l'échange avec l'autre. C'est pas un géo du Club Med du tout, quoi. Il finit par me le donner, puis il m'envoie une vidéo de moi sur la planche en me donnant des petits conseils, etc. Et en fait, je sais pas, il y a des petits contacts physiques, on va dire, mon cœur sent quand même quelque chose. Il y a une sorte de connexion chimique. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens avec qui on match et il y a des gens avec qui on matche pas. C'est parfois, il se passe des trucs, c'est inexplicable, c'est qu'en fait, il y a une sorte de connexion. Là, il se passe ça, quoi. Le dernier jour sur la plage, il a une planche de surf autour du cou. Je lui dis qu'elle est stylée. Il la retire et il me la donne devant tout le groupe. Il est quand même hyper réservé. Il la prend, il me la donne un peu comme un cadeau. Je le vois qu'il est touché. Il me regarde, il y a une sorte de regard. Franchement, il se passe un truc. Donc la semaine se termine. Et là, il va falloir rentrer. Et fin du séjour, bah, y a quand même un moment où on se dit tous au revoir. Et au moment un peu des étreintes de départ, tout le monde se dit au revoir. Et nous, il y a quand même un moment où il y a une sorte de petit malaise. Il y a un petit malaise avant de le faire. On sent que on va le faire, mais pas trop proche. Mais voilà, c'est pas du tout comme l'étreinte qu'on a avec tous les autres. Et donc, en fait, on se dit au revoir. On s'enlace. Franchement, j'ai le cœur qui me tape quand même dans la poitrine hyper fort. Il s'en va. Et là, je me dis, bon, bah c'est tout, quoi. C'est fini. C'était le délire de la semaine. Et voilà. Mais en fait, ce petit truc, il reste, quoi. Je me dis, putain, en fait, je peux encore vivre des trucs comme ça, quoi. Tu te sens hyper vivante, tu te dis, putain, ce claquage dans la poitrine, franchement, c'est fort, quand même, ce truc. Et donc, je rentre en France, et quand même, j'en parle à une amie. J'ai une amie avec qui je peux énormément partager, qui m'a énormément aidée pendant mon divorce, et surtout, c'est une amie qui n'est absolument pas dans le jugement. C'est-à-dire que je sais qu'elle, je peux lui dire. Je lui envoie une photo de Amada, et je lui envoie un message. Tant que je reverrai pas ce mec, je sens que je ne vais plus respirer pareil. Et si je le revois, je sais que je vais gâcher ma vie. Donc c'est hallucinant, je lui envoie ce message en rentrant. Un peu sur le ton d'une blague, mais finalement avec le recul, ce message il est hyper, hyper fort. Puis en parallèle de ça, pendant des semaines, eh ben, j'ai mes échanges avec Amada qui s'intensifient. Ça finit par je me réveille avec son bonjour, je me couche avec son bonne nuit, il me parle matin, midi et soir. On se confie énormément, on se découvre. Et en fait, il me fait énormément de bien parce que c'est quelqu'un d'hyper simple, il a pas grand-chose. Et en fait, dans ce moment de vie où je suis, ça me fait beaucoup de bien en fait. Ça me raccroche à une sorte de truc hyper simple où il y a rien à penser d'autre que l'émotion qu'on est en train de vivre en fait. Et c'est vrai que il me confie aussi un truc hyper dur par rapport à sa vie à lui, où j'apprends qu'en fait il a divorcé en 2019, donc lui aussi il a été marié, et il a vécu un truc assez chaud quand même avec avec son ex-femme, un truc très compliqué, et donc lui il est vraiment en mode, à la base il était très très fermé à toute relation. Il me dit, mon cœur était verrouillé, c'est-à-dire que les femmes lui font extrêmement peur finalement. Donc là c'est vrai que moi je me mets finalement à, parce qu'il faut, mettre le mot quand même, quand on parle à quelqu'un matin, midi et soir, je pense qu'assez vite faut s'autoriser à dire oui, j'ai des sentiments pour cette personne, ou je vibre pour cette personne. Et donc effectivement, je me lance là-dedans sans trop penser encore qu'en fait, bah, on a une culture hyper différente, on a une religion hyper différente. Donc quand j'apprends en fait sa vie et qu'il a divorcé, quelque part ça me soulage un peu, parce que je me dis ouf, en fait lui aussi quoi. Donc c'est possible. Je suis pleine de clichés. Moi je me dis ok, musulman au Maroc, il peut pas divorcer, il faut absolument être marié. Moi c'est impossible que je me lance dans une relation avec lui, parce que quelque part je vais rien valoir en fait. Enfin moi je suis périmée quoi, je suis la nana qui a deux enfants, et en fait il va me prouver que tout l'inverse quoi, c'est-à-dire qu'en fait chaque étape il va me prouver que tout l'inverse. Et donc quand on en parle, il me dit non, il voit pas le problème, enfin en tout cas il me dit c'est la vie, c'est comme ça. Il prend un peu tout comme un cadeau, lui il est très positif, tout va toujours bien en fait, c'est-à-dire que vraiment lui c'est la culture du verre à moitié plein quoi, c'est extrêmement agréable. Alors moi en plus je suis un peu comme ça aussi de nature, donc c'est top, c'est-à-dire que vraiment je me dis bon bah moi je me sens plus quoi, je me dis ok, c'est génial en fait, le chemin s'ouvre et ça va être top. Et c'est vrai qu'à ce moment-là je me dis pas ouais mais en fait Caro ça va être hyper dur à porter en fait peut-être après. Pas du tout, en fait moi je vis mon truc et puis je me dis allez hop, à ce moment-là je me dis on y va, et voilà. Ce temps-là, en même temps qu'il se passe ça, la relation avec mon compagnon s'arrête, parce qu'en fait ça n'a plus de sens. Et moi je me sens extrêmement coupable de vivre ça, c'est-à-dire qu'en fait je me dis meuf, t'es pas normal quoi, c'est-à-dire que là ce que t'es en train de faire c'est une catastrophe quoi, c'est-à-dire que t'avais un mec, qu'est-ce que c'est que ce délire, et à la fois je suis prise dans une émotion de tellement de ouf qu'en fait j'arrive quand même pas à m'arrêter, ça me fout quand même un coup. Et à la fois en même temps je me découvre une puissance que je ne me connaissais pas. De, en fait, bah, tu peux être toute seule ici. En fait, tu peux faire des trucs toute seule et tu peux vivre des trucs toute seule et t'as le droit de vivre ce truc. J'ai un vrai syndrome de culpabilité énorme. J'arrive à le partager avec presque personne ici parce que je me dis, les gens vont me prendre pour une tarée, quoi. Ils vont me dire, meuf, tu fais une crise d'adolescence, t'es en train de péter une durite, remets-toi. Je me dis, ils vont pas comprendre, quoi. Et pire, ils vont me faire peur et ils vont me casser mon truc. Et j'ai la chance d'avoir une psychologue, quand même, que je vois depuis mon divorce, donc depuis très longtemps. Et elle me dit, si ça vous fait du bien, vous avez le droit de le vivre. Et quelque part, elle me tamponne le truc. Elle me dit, oui, t'as le droit de vivre un truc qui te fait vibrer, en fait. C'est pas grave. Et donc, elle me fait énormément de bien. Et moi, je me dis, donc, ok, ça fait plusieurs mois qu'on parle comme ça. Ça me fait du bien. Les planètes s'alignent. Faut que j'y retourne pour voir si, effectivement, c'était un soufflet ou si on se revoit physiquement, il va se passer un truc. Parce que là, on est quand même dans un couple à distance, en vrai. On n'est pas du tout du même milieu social. Donc, en fait, on a strictement rien en commun, c'est-à-dire qu'on est sur un le yin et le yang. Donc moi je suis blonde aux yeux bleus, toute blanche, il est hyper bronzé, il est marocain mais hyper bronzé, il est musulman, moi je suis totalement athée, il est au Maroc, je suis en France, il a 34 ans, j'en ai 38, on est dans vraiment un truc extrêmement différent. Alors on a un truc en commun quand même, c'est qu'il a perdu son papa il y a quelques années, et donc on se retrouve un petit peu là-dessus, parce qu'il a énormément souffert de ça, et donc lui, il vit en famille, mais dans une famille effectivement d'un milieu social extrêmement bas. Enfin, clairement, si ma mère était là, je sais pas ce qu'elle dirait aujourd'hui, je me pose pas trop la question, parce que sinon c'est trop violent pour moi. Et pour autant, moi ce que je sais, c'est que là, je vibre, quoi. Alors, avec Amada, on se dit que je vais revenir, bien sûr, et je prends un billet d'avion. C'est la première fois de ma vie, à 38 balais, que je vais prendre l'avion toute seule, que je vais partir toute seule. Je vis ça comme un truc complètement ouf. Donc j'ai des papillons dans le bide, c'est un mélange de fierté, de panique, de je me dis putain c'est incroyable, je vais aller prendre l'avion solo, je vais me retrouver toute seule en vacances. Je suis transcendée d'émotions quoi. Finalement dans l'avion je me dis mais c'est fou quoi, j'ai pas vécu un truc pareil depuis que j'ai 14 ans. Donc voilà, donc j'arrive au Maroc, j'atterris, je lui dis que je suis arrivée. Lui il m'attend chez lui, parce qu'il est pas venu à l'aéroport parce qu'il bossait à ce moment-là. On se parle matin et soir depuis des mois, mais on s'est pas revu physiquement. Moi je suis quand même un peu en panique de me dire ok comment ça va se passer, parce que je vis tout ça et en même temps je sais très bien que tout peut s'effondrer comme un château de cartes quand on va se revoir, parce qu'en fait ça peut être un truc qui va physiquement pas du tout matcher quand on va se revoir, et voilà. Et à la fois c'est hyper bon de vivre cette potentielle connerie. C'est de l'adrénaline pure. Et donc j'arrive, mon téléphone il vibre 30 fois par minute, je suis au max de ma pression. Lui il me demande de venir devant chez lui, donc je me dis ok, je vais carrément aller devant chez sa famille. À la fois ça me passe le message de c'est quand même assez important. Et là il sort, on se revoit pour la première fois. Je pense que mon cœur quand même s'arrête. Il est hyper beau, il s'est fait hyper beau. C'est-à-dire qu'il est méga bien habillé, il est hyper souriant. Et à la fois il est hyper gêné, il est timide, il regarde par terre, il me dit bonjour. On s'embrasse pas, mais il me fait un câlin quand même, qui est assez rapide. Et puis après, on va passer cette semaine comme ça, ou pendant quelques jours, il va rien se passer, on va reconnecter et être dans une discussion à deux sur nos vies, etc. Ça va être hyper profond. Je vais découvrir plein de trucs, il va en découvrir de moi. Enfin voilà, ça va être très très fort. Et évidemment, à la fin de la semaine, enfin au bout de 4 jours, il va finir par m'embrasser. Il est hyper dingue ce baiser parce qu'en fait c'est, je sais pas, il a une saveur, c'est incroyable en fait, c'est un côté incroyable, ça me fait énormément de bien parce que je pense que quand on partage beaucoup comme ça, c'est un peu le, ça y est on y est, franchement ça me fait la même chose que quand on embrasse quelqu'un quand on a 17 ans. Il est très câlin, franchement on vit les deux jours qui restent un peu sur un nuage, c'est très fort parce que je pense que c'est fort dans ce qu'on vit à deux, c'est fort dans ce qu'il vit lui avec lui-même, dans ce que je vis moi avec moi-même, enfin voilà, moi je me sens hyper chanceuse à ce moment-là de ressentir des choses comme ça à mon âge, quoi. Je me dis putain c'est dingue, alors je suis pas vieille hein, mais en fait je me dis putain la saveur de la vie quoi, c'est incroyable. Là je suis vraiment dans ce que j'avais envie de vivre. Je suis pas dans la famille standard, je suis pas dans le schéma qu'on s'imagine tous, j'ai pas ma Citroën Picasso devant chez moi, j'ai pas, mais j'ai ça quoi, je suis en train de vivre ça quoi. C'est canon. Après, quand on se quitte, bah alors je finis par rentrer évidemment après cette semaine-là. Donc c'était la deuxième fois que j'y allais, la première fois que voilà, je rentre en France. Notre relation finalement, elle s'installe et en fait, ça suit son cours exactement comme ça avait commencé. C'est-à-dire qu'on a besoin l'un de l'autre. On se parle le matin, le midi, le soir. En tout cas, dans nos pauses, dans nos boulots, on s'appelle tout le temps. Il me fait sentir à quel point je suis importante dans sa vie. C'est-à-dire que vraiment, il me donne une place hyper importante. C'est hyper agréable. Et moi, je lui donne aussi une place. Et donc notre relation, elle s'installe comme ça. Et donc très naturellement, petit à petit, je vais y aller de plus en plus régulièrement quand même. C'est-à-dire que dès que je peux y aller, j'y vais. Donc après, je bosse dans le digital. Donc quand j'ai 5 jours par-ci par-là que je peux faire à distance, je vais y aller. À toutes mes vacances, j'y vais. C'est très facile. Et à la fois, chez lui, c'est pas du tout un sujet parce qu'en fait, ils ont quand même une précarité de l'emploi qui est assez importante quand même au Maroc. Et donc, des couples avec des gens qui se voient peu, c'est très courant en fait chez eux. Donc, pour lui, c'est pas du tout un sujet. C'est-à-dire que moi, au début, je me questionne. Je me dis, mais attends, notre couple, en fait, enfin, je sais que je lui pose la question. Comment on va faire? Et lui, en fait, à chaque fois, il me dit, mais pourquoi? Lui, c'est pas du tout un sujet en fait, la distance. C'est parce qu'en fait, nous ici, on est dans un schéma de couple assez capitalistique où en fait, on se dit, ok, on est un couple, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Dans cette culture, c'est plutôt ok, on est un couple, qu'est-ce qu'on vit ensemble? Ils sont pas du tout dans qu'est-ce qu'on construit ensemble. Donc toutes les questions qu'on m'envoie ici, assez facilement, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que ça va être dans 6 mois? C'est pas du tout une question là-bas en fait. C'est plutôt est-ce que t'es heureux? Oui, bah génial. Là-bas, notre couple, il est hyper connu, reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis au Maroc, tout le monde sait que depuis longtemps maintenant, on est un couple. Donc, il y a pas du tout de sujet. Les questions de différence, c'est plutôt moi qui les vis ici quand je partage le fait que bah, j'ai cette relation-là où facilement, on va me demander « Mais donc alors, tu vas pas te convertir? Tu vas pas... Faut pas que tu te maries ?» Moi, dans mon couple, c'est des questions qui existent pas. Est-ce qu'on va se marier? Lui, il est très clair. En fait, aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet. Moi, j'ai pas du tout envie de me remarier. En tout cas, c'est pas du tout un sujet. Et donc, on en parle très librement et ça lui pose aucun problème. Lui, en fait, pour lui, c'est un cadeau de la vie et donc on en profite comme ça. Et donc, il y a pas d'autre sujet en fait. Il y a pas de je suis athée. Et ben, c'est très bien comme ça. Il m'a jamais dit oui, mais tu sais, ma religion, c'est comme ça, c'est quand même génial. Pas du tout. Lui, il a pas d'enfant. Lui, il avait pas d'enfant avec son ex-femme. Moi, il connaît mes enfants. Il les a vus plusieurs fois et elles viennent avec moi. Là encore, quand on repart en février, elles vont venir avec moi et il va les voir. Sa famille, elle a été hyper accueillante avec mes enfants et on a passé des moments top cet été. C'était génial et franchement, je trouve que même pour mes enfants, c'est hyper riche en fait de vivre des trucs comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'amour en fait. C'est que de l'amour au centre de l'histoire. Quand on est là-bas, c'est vraiment qu'il y a que ça qui compte quoi. Est-ce qu'on est heureux ? Oui, on est heureux, on vit des super moments, c'est génial. En fait, moi, je voulais témoigner pour deux raisons. Une, pour dire qu'en fait, qu'importe la vie qu'on a, franchement, faut se donner la chance de s'écouter et d'être OK pour aller vers des choses qui nous font vibrer. C'est tellement dingue. Je pense qu'il faut réussir à s'affranchir de ce que pensent les gens et se dire OK, c'est génial, j'y vais. Et la deuxième raison, c'est quand même que j'avais aussi envie de moi témoigner pour moi aussi assumer ce truc et dire OK, on se heurte à beaucoup de clichés, à beaucoup de choses quand on partage ça. Et j'ai envie de dire à tout le monde, si vous avez dans votre entourage une mère, une sœur, un frère, un ami qui vit un truc qui semble pas hyper standard, c'est pas grave en fait. Ne vous inquiétez pas pour lui, juste demandez-lui s'il est heureux. Et en fait, s'il est heureux, c'est génial, ça suffit. Et moi, à titre perso, j'ai l'impression en ce moment avoir reconnecté avec la personne que je suis dans le fond. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime bien vivre des choses fortes, qui sortent de l'ordinaire, qui sont belles, qui sont riches. Moi, je vis des trucs. Ce couple, en fait, c'est d'une richesse incroyable. Si à 14 ans ou 15 ans, on m'avait demandé la vie que j'allais avoir et qu'on m'avait fait trois propositions, la Caroline de 14 ans, elle se serait plus reconnue dans la vie que je suis en train de vivre maintenant que dans la vie que j'ai eue avant.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.